Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Justine, l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers les rencontres que je fais en voyage ou en France, ici, sur un festival. On est sur un festival des rencontres chamaniques où tu as différents représentants de différentes traditions qui sont venus présenter leur culture. Il y a tout un village associatif et un petit village sur lequel je t'ai rencontré ce matin où tu vends ton artisanat. Donc toi Justine, je sais pas grand chose encore de toi, mais l'idée c'est qu'on prenne le temps de te rencontrer, qu'on découvre un petit peu ton univers, ton parcours de vie, et à quel moment est-ce que tu as fait le choix de peut-être quitter la France pour t'ouvrir sur d'autres réalités, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres traditions, d'autres croyances.
Bonjour Alex, ouais, je m'appelle Justine, donc je suis née en France à la base. Et j'ai fait mes études en France, en géologie. J'ai toujours été passionnée par les roches, les minéraux, la volcanologie. Et à la fin de mes études, il y avait un stage à faire. Et j'ai candidaté à différents endroits. Et j'ai voulu aller vraiment là où ça me porte et au premier qui me répondrait. Et je me suis retrouvée donc en Australie, où à la fin de mon stage, ils m'ont proposé de rester et de sponsoriser mon visa. Donc je me suis retrouvée en Australie pendant 5 ans et où j'ai travaillé comme géologue dans le bush.
Donc ça c'est grâce à ton cursus scolaire que tu as eu cette opportunité de faire un stage, que tu t'es retrouvée à l'étranger.
Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment faire l'expérience, mêler ma passion pour la géologie et le voyage, voilà deux de mes grandes passions. Et c'était vraiment un cadre fantastique, voilà, dans la nature, voilà, avec toute la faune et la flore qui va avec. Et donc j'ai passé 5 ans dans cet environnement. Et au travers de mes relations là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui s'intéressait énormément aux médecines naturelles et aux cultures ancestrales et chamaniques, en Amérique du Sud. Et qui m'a parlé d'un voyage qu'il avait envie de faire en Amazonie, en Amazonie péruvienne. Et voilà, et ça m'a beaucoup parlé.
Donc on va y revenir plus tard, à l'Amazonie et au Shipibo, parce que là on est vraiment dans deux pays géographiquement très éloignés l'un de l'autre. On va rester d'abord un peu en Australie, avant de partir avec toi en Amazonie à la rencontre des Shipibo. Mais donc l'Australie, toi c'est la géologie. Alors ça fait partie de ces métiers qui font un peu rêver, comme archéologue, comme astronaute. Enfin, il y a comme ça des métiers qui renvoie à un imaginaire. Donc qu'est-ce que c'est que la géologie? Pourquoi tu as choisi ça? Et juste, qu'est-ce que tu y faisais en Australie en tant que géologue?
Alors la géologie, c'est l'étude de la Terre, des sciences de la Terre de façon générale, où il y a plein de domaines, après de sous-domaines différents. Moi, je m'intéressais, j'étais vraiment passionnée par la volcanologie depuis toute petite. Quand j'étais petite, même à l'école primaire, je voulais faire Haroun Taziev, qui est un des pionniers de la volcanologie. Et j'ai suivi cette passion pendant toute mon adolescence et après pendant mes études. Et je me suis spécialisée peu à peu en minéralogie et en volcanologie. Et en Australie, je faisais beaucoup de cartographie dans la nature, donc dans le bush, voir en surface qu'est-ce qu'on identifiait les différentes roches. Et après, faire certaines analyses chimiques en surface, des corrélations, reconstruire l'histoire géologique de la région, comment ça s'est formé, à quel âge... Et pour donner les paysages que ça donne maintenant.
Il y a des volcans en Australie?
Alors, très anciennement, qui sont maintenant, on va dire, érodés, c'est-à-dire que le vent, l'eau et les mouvements de la Terre ont fait qu'ils sont aplanis et détruits, ils sont retournés à poussière, mais on voit encore le sol sur lequel on marche sont les restes de coulées volcaniques ou de formations volcaniques qui datent. Alors, en Australie, ça a un âge... vraiment impressionnant. Et c'est ça aussi qui me fascinait beaucoup. On travaille sur des roches qui ont 2 milliards d'années, 2 milliards et quelques d'années.
Je trouve que quand on s'intéresse au minéral, il y a une forme d'humilité. On se retrouve face à du gigantisme en termes de temporalité. Hein, tu parles de 2 millions d'années, 2 milliards d'années, on parle de roches, de volcans. Donc c'est vrai qu'une époque, la Terre, les continents n'étaient pas ce qu'ils n'étaient. Il y avait des éruptions volcaniques partout. Enfin, je trouve que vraiment cette discipline nous permet peut-être de nous rappeler à quel point on est presque insignifiant.
C'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'humilité, il y a une question d'échelle, on se sent vraiment infiniment petit et moi en tout cas je ressens infiniment un respect infini envers la Terre, envers cette Terre. Même, je disais en Australie, les roches que je côtoyais qui avaient 2 milliards d'années, donc c'est presque la moitié de l'âge de la Terre. Mais même des roches, on va dire, qui ont 100 000 ans ou 150 000 ans, ce qui est beaucoup plus jeune au niveau géologique, c'est quelque chose qui nous dépasse aussi. Moi, la première, on a du mal à conceptualiser un âge tel que 100 000 ans, 200 000 ans, et 2 milliards d'années encore plus. Donc, on se sent vraiment tout petit, on est comme une petite fourmi à essayer de comprendre d'où ça vient, d'où vient la Terre et du coup d'où on vient, qu'est-ce qui nous porte et qu'est-ce qu'on voit chaque jour.
Et ça te permet aussi, quand tu te balades quelque part, d'arriver à faire une lecture du paysage, d'avoir un peu une idée de ce qui s'était passé dans telle et telle région du monde il y a 10 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, 1 million d'années.
Ça, c'est sûr qu'avec cette vision des choses, je ne regarde pas le paysage de la même façon. Et même partout en France où je vais maintenant pour une randonnée ou pour quelque chose comme ça, que ce soit dans les Alpes, en Dordogne, en Bretagne. On ne peut pas s'empêcher de voir dans tel paysage, on se dit « Ah, là, on dirait qu'il y a une faille, là, il y a... » Voilà. Ou l'ancien fond d'un océan, parce qu'on a vu que sur le sentier, là, c'est telle roche. Donc on se dit il y a 300, 400 000 ans, on était au fond de l'océan. Et on se retrouve à 2000 mètres d'altitude. Ça donne vraiment presque le vertige et, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup d'humilité.
Avant de rester avec toi en Australie pendant 5 ans et de parler un peu de cette étape de ta vie là-bas, je veux juste un tout petit cours de géologie. J'ai des vagues souvenirs qu'il y a 3 types de roches, magmatiques, métamorphiques et sédimentaires, c'est ça ?
Impeccable, incollable. Il y a 3 grands types de roches. Si on veut pinailler un petit peu, on peut même en rajouter un quatrième, les roches mantéliques du manteau. Le manteau, en fait, si on considère la Terre comme une sphère, il y a des roches qu'on ne trouve jamais à la surface de la Terre parce qu'elles sont dans une enveloppe un petit peu plus profonde. Et ce sont des roches qui ne se retrouvent jamais en surface et, par exemple, à partir desquelles le magma se forme. Et ce magma, lui, remonte à la surface pour donner les roches magmatiques ou volcaniques. Mais ces roches mantéliques, donc dans la Terre, ne remontent qu'exceptionnellement. Et quelquefois, à travers le volcanisme, on a la chance de pouvoir les observer. Mais oui, il y a 4 types de roches. Les roches métamorphiques qui sont issues comme donc métamorphose, la transformation de roches préexistantes, donc parce que avec les mouvements de la Terre, elles se sont retrouvées enfouies sous un océan, sous une chaîne de montagnes, et avec les contraintes, la pression qui augmente, la température qui augmente, c'est d'autres minéraux qui se forment, ce sont des plis qui apparaissent, et on appelle ça donc des roches métamorphiques. Et les roches sédimentaires qui sont issues de la formation de roches au fond des lacs, au fond des océans.
Et donc ça, c'est vraiment l'accumulation de tout le déchet organique qui vont créer différentes couches avec la pression de l'eau, vont créer de la roche qu'on retrouve, comme tu disais, des fois à 3, 4, 5, 6 000 mètres d'altitude avec le mouvement tectonique des plaques.
C'est ça, c'est pour ça qu'on retrouve des fossiles sur les sommets des Alpes, dans certains massifs, et aussi des galets de rivières polies comme on trouve maintenant dans la Loire, dans la Garonne. Dans le massif du Mont Blanc, à 2000-3000 mètres d'altitude, on a des galets de plages de rivière.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
« Comment se tourne la page de l'Australie après 5 ans? Tu disais au début de cette émission que tu as été introduit à la culture des chipibos. Donc là, dans notre pays, notre continent, on parle de forêt amazonienne, de Pérou et de Brésil. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Australie et comment tu t'es retrouvée à clore ce chapitre?
Alors, je me suis retrouvée au Pérou, encore une fois, par hasard, hein, comme je me suis retrouvée en Australie. C'est un ami donc, australien qui s'intéressait énormément à ça, aux cultures ancestrales et aux traditions de médecine naturelle et chamanisme, en particulier d'Amérique du Sud. Chamanisme, voilà, avec les plantes, et moi je ne connaissais absolument rien de ce monde et de cette vision de la vie et de cette vision de la médecine, et il a été le premier à m'en parler. J'avais jamais rien lu sur internet, je connaissais même à peine le mot chamanisme, je voyais pas trop ce que ça représentait. Et il a fait un premier voyage là-bas, lui seul, et quand j'ai vu au retour, voilà, même sa transformation, le regard qu'il avait sur ses émotions, sur son quotidien, sur voilà, la relation à la vie. Ça m'a vraiment, encore une fois, je ne peux pas trop l'expliquer parce que je ne savais pas en quoi ça consistait, mais j'ai ressenti vraiment dans mon cœur et dans mon corps, hein, je me suis dit, ah oui, c'est pour moi. Enfin, ça m'attire énormément. Et un an après, donc, on y retournait ensemble. Et j'ai découvert donc cette culture, les plantes et les traditions, entre autres dans la tradition chipibo en Amazonie péruvienne. Et de fil en aiguille, d'année en année, j'y suis retournée de plus en plus longtemps. Et entre-temps, j'ai quitté l'Australie, j'ai quitté mon travail, voilà, de géologue. Je garde toujours autant la passion du minéral. Mais je suis arrivée, voilà, à un stade où je ne me voyais pas faire, on va dire, ce métier, voilà, pendant 20 ans. Et je préférais, voilà, mettre un terme à ça avant de m'y ennuyer et avant de ressentir ce genre de choses. Et j'ai décidé de quitter ce travail et m'investir, voilà, plus pleinement dans la découverte de ces cultures et dans l'art aussi, la peinture qui a pris de plus en plus de place dans ma vie d'année en année.
Donc tu quittes l'Australie, là-bas il y a aussi, enfin voilà, quand on parle de peuple racine, peuple premier, plante médecine aussi, ça je veux qu'on en parle après, parce qu'il y a un phénomène de mode autour de ça aujourd'hui. J'ai l'impression que ça grandit en Europe, en France, les cérémonies cacao, les cérémonies autour de l'ayahuasca, le râpé, enfin, tout ce qu'on parle, quand on parle de plante médecine, je trouve qu'il y a une vague qui est en train d'arriver. Toi tu l'as découvert donc là-bas, en Australie, on faisait aussi déjà ça, les cérémonies cacao, l'ecstatic dance et tout ce qui va avec les plantes médecines.
Alors moi, à titre personnel, voilà, j'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais, voilà, le yoga ou éventuellement le magnétisme, mais pas plus que ça. Et ça a vraiment, enfin, je suis passée de 0 à 100%. Ça m'a ouvert les yeux sur moi, sur mes émotions, sur voilà, des choses qui bloquait, sur ma vision de la vie et ma relation à la vie et à la mort aussi, hein, de façon générale. En Australie, je ne peux pas parler parce que je ne connaissais pas ces pratiques. En Australie, c'est vraiment au Pérou, hein, que je les ai découvertes. Après, c'est un peu comme la France, hein, donc oui, il y a des cérémonies, voilà, qui se font. À cette époque, j'en avais aucune connaissance. J'ai vraiment fait l'expérience directement, voilà, dans une communauté là-bas. Et pendant des années, jusqu'à récemment, c'est uniquement là-bas que j'ai voulu faire aussi mon apprentissage pour être vraiment aussi sur la terre de ces plantes, là où elles poussent, avec les gens et les communautés qui les connaissent depuis des centaines d'années et qui est en lien avec l'environnement qui va avec, et pas juste la plante prise dans un autre environnement. Mais ça, voilà, c'est mon expérience personnelle, c'est ça qui me parlait.
C'est vrai qu'on peut parler aussi d'appropriation culturelle parfois de certaines plantes, certaines traditions, mais bon, après, pourquoi pas, on vit dans un monde global et voilà, c'est pas du tout péjoratif ou négatif, mais j'entends aussi l'envie d'aller faire du yoga en Inde, prendre des plantes médecines en Amazonie, et enfin aller là finalement où, enfin, les écosystèmes qui offrent ça, que ce soit des écosystèmes naturels ou culturels. Donc voilà, tu pars au Pérou rencontrer les chipibos, donc on te parle de ces plantes médecines quand tu es encore en Australie, tu pars là-bas. Parle-nous un petit peu de ce voyage et cette transformation intérieure, parce que tu y es allé avec une intention aussi, et voilà comment ça t'a impacté, et si tu veux bien nous emmener un petit peu dans cet univers des plantes médecines et sacrées.
Alors oui, la première fois que j'y suis allée, c'était vraiment voilà, purement à titre personnel et de découverte, hein, parce qu'encore une fois, je ne connaissais absolument pas ce domaine. Donc c'était vraiment avec des intentions, on va dire, très flagrantes et très simples, voilà, du quotidien, au niveau du stress, d'anxiété, de confiance en soi, de choses comme ça. Au niveau physique aussi, je souffrais beaucoup de migraines à cette époque. La première fois que j'y suis allée, pendant presque une dizaine d'années, j'avais voilà, beaucoup de migraines. Et j'avais vraiment... J'ai vraiment eu beaucoup de soins suite à ça. Et le premier voyage, après mon premier voyage, j'ai plus jamais eu de migraine de ma vie. Alors je ne clame pas que c'est un remède miracle pour ça, mais pour moi en tout cas, je me suis vraiment libérée de choses et j'ai jamais souffert de ça après. Ça m'a vraiment a contribué à la construction de la confiance en moi, à une meilleure gestion du stress, des aléas de la vie aussi.
Donc, quand tu parles aller là-bas, on parle de plantes, hein, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de l'usage des plantes dans la culture Shipibo ? Peut-être revenir sur le contexte culturel, les Shipibo et l'usage des plantes dans leur tradition.
Alors les plantes, pour eux, elles font vraiment partie intégrante de leur vie à tout niveau, que ce soit pour l'alimentation, la culture, le soin et les cérémonies donc chamaniques. La médecine par excellence, voilà, en Amazonie péruvienne, c'est dont on entend le plus parler de plus en plus, c'est l'ayahuasca, donc qui est une préparation à base de deux plantes, une liane qu'on appelle l'ayahuasca et des feuilles d'un arbuste qu'on appelle le chacruna. Et à cette préparation, on peut rajouter d'autres plantes, voilà, avec différentes propriétés pour spécialiser ou rajouter une intention, mais on va dire c'est la préparation de base, c'est ça qui est pris en cérémonie et qui, on va dire, peut faire avoir des visions et surtout c'est une médecine, c'est vraiment une intelligence, voilà, et qui, avec l'intention, va venir débloquer en nous et guérir et nettoyer en nous ce qui a besoin d'être guéri. Et là aussi, par rapport à ça, on parlait d'humilité tout à l'heure, il y a une grande humilité, c'est-à-dire qu'on a nos intentions, on va dire, de mental, d'occidental, qui veut travailler là-dessus, qui a besoin, et c'est tout à fait pertinent. Et des fois, le mental, se focalise sur quelque chose qui n'est pas forcément l'essentiel pour nous à ce moment-là, mais la médecine va vraiment prioriser et... qu'est-ce qui est fondamental pour nous à libérer ? Peut-être c'est ce qu'on avait en tête, peut-être pas, ça nous emmène sur des chemins qui ne sont pas toujours planifiés, et c'est ça qui est vraiment beau, ça nous ouvre à beaucoup de choses. Alors les Shipibo, ils considèrent que parmi toutes les plantes, en gros, il y a des plantes médicinales qu'on peut utiliser comme on connaît, en cataplasme, en thé, en fumigation, en préparation, en purgatif aussi, ou à boire et pour faire vomir et se nettoyer. Et parmi ces plantes médicinales, il y en a une petite fraction que eux ils appellent des plantes maîtresses et qui, elles, peuvent apporter des enseignements. Et ce sont ces plantes comme l'ayahuasca, le chacruna et bien d'autres que l'on peut diéter pour apprendre, on va dire, la médecine et apprendre les enseignements des plantes. Et c'est ce chemin que suivent les curanderos, parce qu'on n'appelle pas ça les chamans, hein, en Amazonie, les curanderos, donc curar, celui qui soigne en espagnol. C'est ce chemin, donc ils font des diètes de plantes, telle plante pendant une semaine, un mois, six mois, pour en tirer les enseignements, puis telle autre, et ils développent une relation avec elle comme ça pour s'occuper des gens et les guérir.
Donc là, tu pars au Pérou, j'imagine tu te retrouves à Iquitos, et là commence un voyage en bateau pour aller dans une communauté Shipibo. Donc comment tu l'as choisi, combien de temps tu y passes, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience sur ayahuasca ?
Alors ma toute première expérience, hein, c'était une dizaine de jours, hein, ou une quinzaine de jours, c'était à Iquitos, et c'est d'ailleurs la seule fois, voilà, où je me suis retrouvée à Iquitos. Après c'était plus dans les petites communautés au large de Pucallpa en bateau. Donc on prend l'avion, on prend le taxi, enfin le tuk-tuk jusqu'au port, et puis le bateau pendant 2 heures, enfin voilà, il y a toute une série d'étapes pour aller au plus près, on va dire, de communauté, de la nature. Et Et c'était tout un voyage en soi. Et ça, d'être dans la nature, ça y fait aussi. C'est pour ça, moi, personnellement, ça résonnait énormément avec ma vision des choses, d'être vraiment dans la forêt et là où poussent ces plantes pour être vraiment dans ce contexte-là.
Et comment tu as choisi la communauté Shipibo dans laquelle tu es allée ?
Alors la toute première fois en fait j'ai suivi cette amie qui était allée l'année d'avant parce que moi je ne connaissais rien et comme je lui faisais confiance voilà avec ma vie et qu'il y était déjà allé, je l'ai suivi et après c'est de fil en aiguille et comme ma décision en fait d'aller en Australie et après d'aller au Pérou et même maintenant toutes les décisions que je prends c'est telle personne à tel endroit qui me parle de quelque chose, c'est est-ce que voilà, je ressens que ça m'appelle ou pas. Donc c'est des personnes que j'ai rencontrées là-bas qui y passaient du temps depuis 5 ans, 10 ans, qui y apprenaient, qui me recommandaient à tel endroit ou et c'est de fil en aiguille que j'ai vraiment trouvé après des communautés et des maestros avec qui j'avais envie d'investir davantage mon travail et pendant plusieurs mois ou plusieurs années.
Plusieurs mois ou plusieurs années, donc tu y es retourné régulièrement. Qu'est-ce qui fait que tu y retournais ? Quel était cet appel ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Quelle était l'intention que tu posais à chacun de ces voyages ?
Alors c'était vraiment l'intention d'en apprendre plus, tout simplement. C'est un apprentissage, et d'ailleurs tous les chamans ou curanderos à travers le monde le diront, on n'a jamais fini d'apprendre, que ce soit dans quelques pratiques de chamanisme que ce soit et avec les plantes en premier lieu, on n'a jamais fini, on peut apprendre d'une plante, mais encore si on apprenait pendant 6 mois de plus on découvrirait encore plus de choses sur nous, sur la plante, sur la vie, la mort. Donc c'était vraiment une question d'approfondir ça. Pendant les premières années, c'était à titre personnel et de fil en aiguille, d'année en année, le maestro m'a initié, ou les plantes plutôt, initié à chanter, à voir le soin que ça fait sur nous, sur les autres. Et d'année en année, je me suis davantage investie donc, dans les diètes de plantes et pas seulement les cérémonies d'ayahuasca. Et ces diètes de plantes, on peut les faire pendant une semaine, 2 semaines ou pendant plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour vraiment rentrer dedans et faire un avec cette nature.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors j'aime bien ton parcours parce que tu viens d'un univers scientifique, cartésien, et là tu me parles de plantes médecine avec un système de croyances très différent. Comment est-ce que tu fais le pont entre les deux, entre ton éducation, que ce soit familiale ou l'éducation que tu as pu recevoir à travers ton cursus professionnel, et se retrouver là-bas où on est dans complètement autre chose?
Ben, c'est intéressant l'expression de pont, et c'est vrai que j'y réfléchis souvent à cette notion de pont et de lien entre les deux, parce que une partie de moi voit vraiment l'idée de faire le pont, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire le pont entre ces deux univers, et une autre partie de moi, une petite voix, me dit mais il n'y a pas à faire de pont, c'est tout là au même endroit et il n'y a pas de séparation entre les deux. Et c'est vraiment intéressant, et j'ai eu l'occasion d'avoir ces discussions justement par rapport aux plantes d'Amazonie. Les discussions sur le monde de l'invisible et le côté intelligence des plantes, médecine de l'invisible, les champs, les propriétés des plantes, et le côté, on va dire, anthropologique, classification botanique des plantes, l'aspect chimique, il y a plein d'auteurs qui ont écrit là-dessus, sur ces plantes, sur le tabac aussi énormément. Et c'est vraiment intéressant de voir justement l'alliance des deux. Pour moi, il n'y a vraiment pas de séparation entre les deux. Les deux apportent autant de connaissances et de soins, on va dire, pour son développement personnel. Et c'est vraiment intéressant, comme pour les plantes, comme pour le minéral dont on parlait au début de l'interview.
Donc ce côté un peu invisible et magique, hein, dont c'est autre réalité, cet autre monde dans lequel on accède, peut-être par la prise de plan dans un premier temps. Donc toi, tu en as vraiment fait l'expérience.
Oui, et d'ailleurs, c'est cette première expérience au Pérou, hein, en 2014, où j'avais vraiment... C'est même pas que j'étais fermée à tout ça, c'est juste que vraiment j'en avais pas connaissance de tout ça. Pour moi, petite aperçu que j'avais de chamanisme ou de ce genre de pratique, comme je le dis souvent avec humour maintenant, c'était voilà quelques expositions au Quai Branly à Paris que j'avais vues, mais pour moi c'était vraiment lointain, c'était des choses comme ça. Et la première expérience que j'ai eue pendant ces deux semaines au Pérou, par rapport au minéral, parce que c'était vraiment ça voilà qui me tenait à cœur. Et c'était pas une intention que j'avais, hein, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et ça a vraiment élargi ma vision des choses. Et j'ai toujours cette passion, hein, pour le côté voilà cartésien et la recherche et qu'est-ce que ça apporte. Moi-même, je lis énormément là-dessus, ça me fascine. Et en même temps, comment les cultures ancestrales voient la même chose, ou moi, comment je ressens telle chose quand je suis dans telle nature, sur tel lieu. Et c'est vraiment intéressant de vivre les deux. Des fois, ça concorde. Des fois, on a l'impression de ne pas trop voir un ou l'autre des aspects. Mais c'est vraiment une enquête et ça me fascine parce que j'adore les enquêtes.
Donc c'est bien, je sens que t'es animé par la passion finalement, hein. T'as toujours été à l'écoute de tes rêves, hein. Il y a cette phrase que j'aime bien rappeler, ne rêve pas ta vie mais vis tes rêves. Donc d'abord ça a été d'être volcanologue et d'étudier la géologie à la rencontre des différents mouvements tectoniques et des différents volcans sur la planète, pour te trouver aujourd'hui dans l'univers un peu magique et invisible des plantes médecine. Et après, quelle sera la suite? Et aussi, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on construit une réalité économique dans un monde matériel quand on est dans des dimensions spirituelles et invisibles?
Eh bien, quelle sera la suite? Je ne sais pas trop. Comme je ne savais pas trop 2 mois avant de choisir de déménager en Australie ou 2 mois avant d'aller au Pérou, c'est... Qu'est-ce que ça se présente? Comme je dis souvent, j'ai des projets, j'ai plein d'idées. Alors ça, ce ne sont pas les idées qui manquent. Et après, qu'est-ce qui se concrétise? Je vois qu'est-ce qui est fluide. Des fois, on essaye des choses, ça marche pas. Ou à cet endroit-là, non, en fait, ce projet, ça se fait pas. Ce voyage, ça se fait pas. Et il y a autre chose qui arrive et qui est beaucoup plus naturelle et qui me fait rencontrer telle personne ou telle... Et jusque-là, ça se passe... Ça m'apporte que du bien. Donc, je vais continuer comme ça. Là, je suis de retour en France, du coup, depuis plusieurs années. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déplient en termes de rencontres et d'opportunités pour la peinture et puis pour les pratiques chamaniques dans ces lieux-là. Mais qui sait, peut-être dans 3 mois, il y aura quelque chose d'autre qui se présentera et je repartirai en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, qui sait.
Donc tout est possible.
Tout est possible.
Justine, merci. Dernière question que j'aime bien poser, qu'est-ce que le voyage t'a apporté, hein, si tu devais faire un peu un step back par rapport à ta vie et les différents mouvements, les différents voyages que tu as pu faire, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Énormément d'ouverture d'esprit, de richesse et de ouverture d'esprit et flexibilité, justement, sortir de voir autre chose que sa vision des choses. Et après, je voudrais juste dire un petit mot par rapport à ce mot voyage. Là, on parlait d'Australie, du Pérou. Et depuis mon voyage, dont mon retour en France, beaucoup de gens m'ont dit, de la famille ou des amis ou des inconnus, mais t'es pas blasé ou frustré de revenir en France, justement, après tous ces voyages et toutes ces expériences? Et moi, pas du tout. C'est quelque chose que je vois pas du tout comme ça. Et pour moi, on peut voyager très loin, même en France, même dans ses passions, le voyage géographique, entre guillemets, ou même par avion ou dans telle culture, est pas quelque chose de nécessaire. Faut surtout suivre qu'est-ce qui nous appelle, à quel moment. J'ai énormément de gratitude pour tous les voyages que j'ai faits ou que je ferai peut-être à nouveau dans le futur, et énormément de gratitude pour ce que je, les voyages que je fais à 20 km de chez moi et qui m'enrichissent tout autant.
Est-ce qu'on a aussi des plantes médecine chez nous ?
Énormément, c'est juste que voilà, par dans notre culture, on va dire occidentale de façon large, on s'est davantage déconnecté de ça par rapport à certaines cultures ancestrales sur d'autres continents. Mais il y a énormément de choses dans le jardin, de la sauge, le thym, le romarin, la violette, tous les arbres, enfin tellement de plantes sont des ce que les Shipibo appelleraient également des plantes maîtresses s'ils vivaient chez nous. Et d'ailleurs, ils en trouvent les Shipibo ou autres, quand ils se promènent dans nos forêts, ils vont s'arrêter devant un arbre et nous dire « Ah oui, cet arbre-là, c'est bon pour ça. » Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de chez nous, mais ça se cultive aussi, cette reconnexion à l'esprit des plantes, à leur corps physique aussi, hein, cartésien, comme on va dire, chimique. Tous ces aspects-là, elles ont tant à nous offrir, voilà, que ce soit les plantes françaises que les plantes amazoniennes.
Justine, merci. Merci beaucoup à toi.
Mais merci pour ton temps et ta confiance.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.